Session de théologie, la création, le péché, par le père François Arimon, le 21 février 1993, premier cours.
Alors il y a une série de questions. S'il vous plaît, pouvez-vous revenir un instant sur le passage dans l'être premier de la causalité finale à la causalité efficiente? Je ne vois pas comment Dieu cause de façon efficiente. En outre, je ne sais pas si je peux dire, à partir de mon efficience limitée au devenir, que j'induis qu'il y a sûrement un être premier créateur qui agit sur l'être. Ce serait beaucoup plus simple comme induction. C'est vrai. Du moins, parce que ce serait beaucoup plus simple. Je vais peut-être regarder les autres questions, parce que s'il y en a qui se recoupent. Bon. Mon Dieu. Alors, si j'essaye de mettre un ordre, je vais prendre peut-être déjà celle-là. Vous avez dit l'être premier est un être personnel. Il est aussi amour de l'amour. Il me semble que la révélation est nécessaire pour dire cela. Sinon, pouvez-vous expliquer comment on peut le découvrir philosophiquement? Ça, c'est important. Je comprends. J'ai essayé de préciser hier, vite, comment l'intelligence humaine est amenée à poser la nécessité de l'existence de l'être premier. Et j'ai montré, ben nous avons dit, hein, que c'était en partant de notre expérience, une expérience, il faut insister là-dessus, surtout aujourd'hui, l'expérience de la réalité la plus parfaite que je connaisse, qui est la personne humaine. Il faut avoir des expériences, c'est-à-dire qualitatives, hein, pour lire à l'intérieur la nécessité de l'existence de l'être premier. Pour, en s'appuyant sur le principe de causalité finale, dire, il est nécessaire qu'existe un être premier acte pur. Parmi ces expériences, Les expériences d'intelligence et d'amour, considérées du point de vue de l'être, sont privilégiées. C'est quelque chose, ça touche ce qu'il y a de plus parfait dans mon expérience. Et donc, je touche tout de suite cet être premier comme non seulement le souverain bien, mais aussi celui qui est le vivant par excellence. Et celui qui est vivant de cette vie, hein, cette vie la plus parfaite qui soit, la vie spirituelle. Je touche cet être comme un être spirituel. Ce n'est pas la révélation. C'est la question de, oui, question de l'être et de l'esprit, hein. Je peux regarder, vous voyez, l'amour d'un point de vue éthique, moral. Je peux le regarder aussi d'un point de vue métaphysique. Qu'est-ce que, du point de vue de ce qui est. Et si j'ai ce regard, je serai amené à découvrir l'être premier, comme l'amour. L'amour de l'amour. Vous voyez, c'est à partir des perfections, si on peut dire des perfections, de ce qui existe, hein, que je suis amené à poser son existence. Et l'amour est quelque chose qui existe et qui a une perfection, hein, du point de vue de l'être. Et donc, je retrouve, en être premier, au-delà de toute limite, l'amour. Je peux l'affirmer philosophiquement. Hein, de même pour la contemplation, la connaissance. Donc ça, c'est pas... Non, c'est pas la révélation. L'être, hein, c'est ce qui est. Ça n'a l'air de rien. Hein. L'être, c'est ce qui est. Je veux dire, ça a la même signification. Alors, d'un point de vue, d'un côté, il y a une abstraction. L'être, ce qui est. L'amour, hein, ça est. Ça existe. Alors, on me demande aussi... Est-ce que c'est parce que Dieu se suffit à lui-même qu'on peut dire qu'il a créé, parce qu'il a créé par une gratuité, il a créé par amour? Est-ce une raison suffisante? Il est amour. Il est amour. Donc, nécessairement, voilà, c'est là la nécessité. Il est amour. Et nécessairement, son action se réalise dans l'amour. Vous voyez, Ce que nous avons fait hier, c'est, à la lumière de la découverte de l'être premier, d'essayer de préciser quelle est cette causalité à l'égard des êtres. Alors, à la lumière de chacune de ces perfections, on essaye de préciser comment s'exerce cette causalité. Oui. Oui. Qu'est-ce que le mal? Ah oui. C'est vrai. Est-ce que le mal existe? Quelle est l'existence du mal? Ça, je ne... Oui, c'est une question que je voulais aborder tout à l'heure, parce que le théologien, la théologie... Alors là, je veux dire, on pourrait en parler aussi au point de vue philosophique, c'est clair. On peut en parler aussi au point de vue philosophique. C'est sûr que c'est une question très très délicate. Parce que le mal existe, mais en même temps, quelle est l'existence du mal? à la lumière de la métaphysique de l'être en acte et de l'être en puissance, on découvre que l'existence du mal, elle est toujours seconde et toujours relative à un bien. Toujours. Alors, après, la question peut se poser, hein, d'où le mal, hein. Vous voyez, quand il y a en un être puissance et acte, il se peut bien que cet être ne passe pas à l'acte. Et donc il y aura privation d'un certain bien, hein. Privation de ce pourquoi il est fait, hein. Il se peut très bien un être qui est en puissance, qu'il n'atteigne pas ce pourquoi, sa finalité. Et il y aura, voyez, donc privation, il y aura un mal. Mais je dois préciser, hein, voyez, l'acte, l'être en acte est antérieur à l'être en puissance. Donc, a fortiori, le bien est antérieur au mal. Alors ça, c'est, hein, mal et bien en soi, par rapport à la question de la création. Ça, on peut se poser, hein, la question. J'y reviendrai. Il y a toute une série de questions sur la causalité. Et j'oublie pas cause efficiente, cause finale. Vous avez dit la cause finale est cause des causes. Pouvez-vous expliquer cette expression? Est-ce valable pour Dieu seulement ou pour toute cause finale? Et quand on regarde la causalité, eh bien, on dit, hein, la cause finale est cause des causes. Donc c'est pas valable pour Dieu seulement. Alors l'expliquer, c'est ressaisir ce que c'est que la cause finale. Comment revenir, dire cela? C'est pas commode. Parce qu'en plus, il faudrait regarder selon les différentes parties de la philosophie. Vous voyez, si je regarde, je reviens à l'expérience première. À partir de cette expérience qu'on a repris hier comme un exemple, au niveau du travail, la cause efficiente présuppose la cause matérielle et la cause formelle. La cause efficiente, hein, va justement, hein, dans le travail, va imprimer une forme dans une matière. Cette action, hein, action de la cause efficiente, qu'est-ce qui en rend compte? C'est vrai que c'est une fin. C'est en vue d'une fin, hein, que la cause efficiente agit. Là, on voit comment, hein, tout est, voyez, ordonné vers la cause finale, à ce niveau-là. Cause efficiente, plutôt cause matérielle, cause formelle, hein, qui sont présupposées, à l'exercice de la cause efficiente qui elle-même est ordonnée hein, à la fin. Cause finale et cause des causes. Ultimement, hein, c'est pour ça que je dis que c'est délicat, parce qu'il faudrait faire la métaphysique de... Oui, toute la métaphysique, c'est la découverte de l'être en acte hein, et de l'être en puissance qui manifeste cela. C'est toute la question du bien. C'est. Vous me voyez bien, bien embarrassé. Hein. C'est sûr que des principes, il ne peut pas y avoir de démonstration, sinon ils ne seraient plus des principes. Ce qui est premier, je ne peux pas le démontrer, parce que je démontre toujours par quelque chose qui est antérieur. Hein. Alors ce qui est premier, je le saisis, ou je ne le saisis pas. Je ne peux pas le démontrer. Hein. Sens fort, si ce n'est, oui, démonstration a posteriori. Hein. Il n'y a pas de démonstration par déduction. Je ne peux pas déduire hein, ce qui est premier. La cause finale, on la saisit. Et quand on la saisit, on découvre qu'elle est cause des causes. Alors, je vous ai mis sur la voie en disant, en revenant à une expérience très simple, maintenant il faudrait faire la métaphysique, on n'a pas le temps, hein, et on découvrirait, en saisissant la cause finale, au niveau de ce qui est en tant qu'il est, cause et cause. Dans les réalités existantes, y en a-t-il qui peuvent être cause première ou est-ce ou sont-ce tous des causes secondes, la cause première étant seulement Dieu? Oui. Cause première, c'est Dieu. Les autres réalités sont causes secondes. C'est vrai. Mais attention, on me dit très bien, hein, Dieu n'est pas cause première à la manière du premier d'une série. Qu'est-ce que cela signifie? Toutes les causes dépendent pourtant de cette cause première. Ben voilà, c'est très bien de mettre les deux questions ensemble. Sa causalité ben, touche l'être. Les autres regardent le devenir ou la forme. C'est pas la même chose. Voilà. Et donc, il est cause première. Parce que sa causalité regarde l'être. Voilà hein, ce qui les distingue premièrement. Alors, il n'est pas dans une série. Nous avons vu que Dieu seul peut créer. Hein. Dieu seul peut faire qu'un être existe. Sens fort. Dieu seul peut donner l'être. Qu'il n'est pas le premier d'une série, il est unique en sa causalité, hein, créatrice. Tandis que dans le reste, hein, après, dans notre monde, eh bien, c'est vrai que les êtres, les réalités existantes, agissent l'une sur l'autre, hein, agissent sur le devenir, sur le mouvement. Hein. Je peux mettre en mouvement une autre réalité. Il y a une certaine causalité, là. Je suis premier dans l'ordre de son devenir. Voilà, je prends ce livre et je le mets là. Hein. Il y a une causalité. J'ai été la source de son mouvement et je peux recommencer. Je peux aussi donner une forme. Vous voyez, ça touche la forme. Alors là, ce qu'on a dit par rapport à l'artiste, hein, touche la forme. L'être, Dieu seul, touche l'être. Donc toutes les causes dépendent pourtant de cette cause première. Ben oui. Parce qu'elles existent. Parce que ce qui est premier, c'est l'acte d'être. Et qu'un être n'agit que dans la mesure où il est en acte. Ouais. Il n'agit que dans la mesure où il est en acte. et que fondamentalement, il reçoit son être de Dieu. Si Dieu était premier dans la série, c'est vrai que le monde n'aurait aucune intelligibilité sans Dieu. Toute philosophie serait directement liée à Dieu. Sinon, il n'y aurait pas de possibilité d'avoir, vous voyez, une connaissance du monde. Ce qu'on pourrait, s'il était le premier, je ne pourrais vraiment connaître le monde que dans le regard de Dieu. Non, il y a une intelligibilité, il y a une autonomie de notre monde, autonomie de la nature. La nature est cause. La nature, qui agit sur le composé, matière et forme, présuppose quelque chose. La matière qui a été créée par Dieu. Dieu n'est pas cause de lui-même. Et vous avez dit que Dieu est sa propre fin. Mais la fin est une cause. Alors Dieu est cause par lui, pour lui-même, selon la fin. Mais dans ce cas, pourquoi dire que Dieu n'est pas cause de ou pour lui-même? C'est bien posé. Causa sui, cause de soi. Qu'est-ce qu'on voudrait dire? Qu'est-ce que vous voudriez dire en disant que Dieu est cause de lui-même? Qu'est-ce que ça ajoute? C'est vrai, c'est difficile de dire Dieu est cause de lui-même. Qu'est-ce que ça nous donnerait comme connaissance sur Dieu? La cause étant le premier principe dans l'ordre de l'être. Dieu est cause de lui-même, ça voudrait dire Dieu est principe dans l'ordre de l'être de lui-même. Il est son principe, il est son premier. La cause implique un ordre, Dieu est un. Alors c'est vrai quand on dit Dieu est sa fin. C'est vrai, Dieu est sa propre fin. Il y a quelque chose de plus que quand on dit Dieu est cause. Dieu est cause, ça veut dire simplement, il est premier, c'est l'aspect du premier, l'ordre. La fin, c'est dire Dieu est en vue de. Voilà. Dieu est en vue de. Il est en vue de lui-même. Mais Dieu est en vue de. Vous voyez, je ne crois pas que dire Dieu est cause de lui-même ajoute, me permet de connaître quelque chose de Dieu. Dieu est sa fin, oui, par la connaissance analogique de ce que c'est que la finalité. Je saisis quelque chose de Dieu. Je vais parler de la finalité en Dieu. Alors, pouvez-vous revenir un instant sur le passage dans l'être premier de la causalité finale à la causalité efficiente ? Je ne vois pas comment Dieu cause de façon efficiente. Alors, est-ce que la question porte, parce qu'il y a deux choses là-dedans, est-ce que la question porte sur la raison qui nous fait passer de cause finale à cause efficiente, ou qu'est-ce que signifie cause efficiente ? Je ne vois pas comment Dieu cause de façon efficiente. Ça veut dire... Il est cause efficiente, il est cause première radicale, d'où la réalité est, d'où toutes les réalités sont, de Dieu. Elles sont de Dieu. Qu'au final, elles sont en vue de Dieu. Qu'aux efficientes, elles sont de Dieu. Ce qu'on va dire, il est source. Ça, c'est une image qu'on va employer. Il est source de leur être. C'est lui qui produit leur être, cause efficiente. Cause finale ne produit pas, hein, elle finalise. Elle est en vue, c'est ce en vue de quoi. Donc préciser que Dieu est cause efficiente, hein, c'est montrer comment sa causalité, non seulement est celle qui... Il est cause première en étant ultime, ce à quoi, celui à qui tout est ordonné, mais en plus, celui de qui tout provient. Voilà, c'est les deux choses. Hein. Ultime, celui à qui tout est ordonné. Premier, radical, celui de qui tout provient. Alors, comment se fait ce passage ? Revenir un instant. Hein. J'agite un peu parce que ça va faire long. Mon Dieu. J'ai insisté dessus, hein, pour montrer qu'il y avait un passage, surtout pour... Parce qu'il y a un ordre de découverte, il y a quelque chose. C'est-à-dire, ça a quelque chose d'évident. Hein. Si on découvre comme cause finale, et qu'on découvre, ah oui, qu'il est premier parmi les êtres, hein, qu'il y a une dépendance des autres êtres à leur égard, ben, nécessairement, on découvre que cette dépendance, elle est aussi, hein, en ce sens que les autres êtres reçoivent de lui d'être, leur acte d'être. J'ai insisté sur le passage pour bien dire que dans l'ordre de découverte, hein, c'est d'abord la cause finale et après la cause efficiente. Voyez, il est cause finale. C'est comme ça qu'on découvre, qu'on le découvre, qu'on découvre son existence. Cette cause finale, hein, elle est première. Cet être cause finale, il est premier. Premier des êtres. D'où, hein, il ne peut être aussi que cause. Il est, voyez, premier, parce qu'il y a lui et les autres. Hein. Ils ne sont pas simplement juxtaposés. Non, ça ne peut pas être une juxtaposition, il y a une vraie dépendance. Et cette dépendance, elle s'étend jusqu'à la causalité efficiente. Je ne sais pas si je peux dire, à partir de mon efficience limitée au devenir, que j'induis qu'il y a sûrement un être premier créateur qui agit sur l'être. Ce serait beaucoup plus simple comme induction. Maintenant, on ne peut pas faire l'économie de l'analyse de ce qui est en tant qu'il est. D'où viendrait cette nécessité ? Il y a sûrement un être premier créateur, il y a nécessairement. Quand j'ai l'expérience de ce qui est, l'expérience de ce qui est ne me donne pas, hein, immédiatement la nécessité d'une source de ce qui est. Je ne peux pas poser la question d'où l'être. Est-ce que je peux y répondre immédiatement à la question d'où l'être ? Non, parce que l'être s'impose à moi. Hein. L'être, il est. L'être, il est. La question d'où, elle est d'abord liée au devenir. Et l'être, je le saisis comme un au-delà du devenir. Non, alors à partir de mon efficience limitée au devenir, non, je ne peux pas induire qu'il y a nécessairement un être premier créateur qui agit sur l'être. Il y aurait une pétition de principe. Il faudrait qu'il y ait. Hein. Pourquoi faudrait-il qu'il y ait un être qui agisse sur l'être ? L'être existe, ce qui est existe. On agit sur le devenir, mais ce qui est existe. C'est le principe de causalité finale. Il n'y a vraiment que cela. On pourrait, là, évoquer la question du premier moteur immobile. Ce qu'Aristote dit. Vous voyez, dans le devenir, hein, on ne peut jamais remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Or, hein, il y a des causes dans le devenir. Donc il faut nécessairement qu'il y en ait une première, et qu'il soit non mu. Hein, parce que toutes les causes que j'expérimente dans le devenir, non seulement meuvent, hein, sont sources de mouvement, mais elles sont elles-mêmes mues. Je ne peux pas remonter à l'infini. Si je remonte à l'infini, je détruis la causalité. Donc, il doit y avoir un premier moteur immobile. Voilà. Ah. C'est une grave question, ça. Est-ce que c'est vraiment une démonstration? D'ailleurs, quelle saisie j'ai? Premier moteur immobile? Je ne sais rien. C'est déjà une première chose qu'on peut dire. Hein. Je ne peux saisir sa manière d'exister que du point de vue de l'être. La voie par le devenir, hein, peut-être... Bon, on peut se poser la question, parce que ça implique quelle saisie de la causalité que j'ai. Hein. J'ai, pour dire, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Hein. D'où ça vient, ça? Mais, de toute façon, même si on aboutissait au premier moteur immobile, vous voyez, à partir du devenir, hein, le mouvement... Il faut bien qu'il y ait un premier. Puis bon, un premier qui sorte du mouvement, parce que s'il est toujours dans le mouvement, ben il faut qu'il y en ait un qui soit antérieur à lui, qu'il ait mis en mouvement. On aurait simplement une connaissance purement négative. Seule la métaphysique de l'être nous permet d'approcher l'être premier, celui qu'on appelle Dieu. Je vous avais dit que ce matin, nous allions essayer de voir la démarche du théologien, de théologie chrétienne. Cette sagesse théologique, hein, l'ordre des trois sagesses, c'est vrai, quelque chose qui nous est bien cher, hein, les trois sagesses, la sagesse philosophique, la sagesse théologique et la sagesse mystique. Cette sagesse théologique qui tient ses principes de la révélation. Hein. Elle est œuvre de l'intelligence. Hein. Il y a une coopération de l'intelligence, mais ses principes, elle les tient de la révélation. Donc c'est totalement différent que la philosophie. La philosophie, hein, ses principes, c'est à partir de l'expérience. La théologie, au sens théologique chrétienne, hein, cette sagesse théologique, elle est, comme on dit, subalternée, une science subalternée à la science des saints, à la science du Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Un Dieu fils unique qui est dans le sein du Père, celui-là l'a fait connaître. Voilà. Il a parlé par les prophètes. Et bien, nous recevons cette révélation. Et notre intelligence cherche à coopérer. À la fois, hein, pour mieux comprendre ce qui nous est proposé à croire, pour mieux saisir où est, hein, ce mystère. Cela nous est révélé parce que ça dépasse, hein, les capacités de notre intelligence. Et l'intelligence va chercher à saisir... Oui. En quoi exactement ça la dépasse? Pour manifester aussi qu'il n'y a pas... Vous voyez, pour enlever en fait tous les obstacles qui pourraient nous empêcher de croire. Parce que la foi peut parfois paraître, hein, conduire à des absurdités. ou des contradictions. Dieu est un et trine. Vous arrivez à comprendre ça? Dieu est un et trine. Parfaitement un et trois personnes. C'est impossible à comprendre. La théologie ne va pas nous le faire comprendre, non. C'est-à-dire encore moins. Mais elle va montrer qu'il n'y a pas de contradiction. Pour enlever les obstacles quant à nous et aussi par rapport à ceux de l'extérieur. Et surtout, hein, en faisant cela, elle va nous conduire au seuil, à la porte du mystère. Voilà ce en quoi exactement réside le mystère. Mon intelligence peut dire jusque-là, et au-delà, elle reçoit. Alors j'ai commencé comme ça hier, hein, en disant la création, ou du moins on l'a dit hier après-midi, hein, par rapport à la création, c'est ça qui fait, j'allais dire, la complexité. Je m'excuse d'ailleurs tout de suite, hein, pour si jamais c'est pas suffisamment clair. Elle fait partie de ces préambula fidei. Donc, ce que nous avons essayé d'entrevoir, hein, jusqu'à maintenant, que l'intelligence par elle-même peut atteindre ce Dieu cause première, créateur. Et peut-être, juste entre parenthèses, hein, je crois que la question a été posée. Pourquoi faire cette étude, puisque Dieu nous simplifie la tâche, hein, en nous révélant. Pourquoi faire cette étude? Alors nous avons dit les raisons hier du point de vue philosophique. Ben oui, si l'intelligence, hein, doit aller elle-même jusqu'au bout de ses exigences, ça, c'est une exigence de l'homme. Hein. L'intelligence humaine demande, hein, de découvrir tout ce qu'elle peut découvrir par elle-même. C'est le respect de l'intelligence. Et le théologien peut se demander, mais est-ce que ça va diminuer la foi? Après tout, puisque c'est proposé à croire, autant le croire. Hein. Si je ne le crois plus, je croirai quelque chose en moins. Est-ce que ça diminue la foi? Une chose est importante. Hein. La finalité, ce n'est pas de croire, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu. La foi, alors là c'est le théologien qui parle, la foi, elle est nécessaire uniquement en vue de la vision, voir. Elle est cette école où est mise mon intelligence pour être conduite à la vision de Dieu. La foi, hein, n'est pas un absolu. Elle est sur cette terre, elle est nécessaire. Mais elle est ordonnée à la vision, à connaître Dieu. Et donc, si je permets à mon intelligence, hein, d'aller jusqu'au bout de ses exigences, je suis en rien rival de la foi. Au contraire. Puisque j'offre à Dieu la plus grande coopération qui soit. La fin, c'est de connaître Dieu, donc que mon intelligence soit parfaite, parfaitement illuminée par Dieu. Et c'est vrai, la foi est marquée aussi par, vous voyez, une certaine obscurité. Il n'y a pas d'évidence dans la foi. Il n'y a pas d'évidence dans la foi. Le philosophe, hein, peut arriver à une certaine évidence. Du point de vue de la foi, c'est pas évident que Dieu existe. C'est certain, hein, mais c'est pas évident. L'objet de la foi, c'est ce qui ne se voit pas. Et c'est un certain défaut de la foi. Vous voyez, elle est une connaissance, une certaine connaissance imparfaite de ce point de vue-là. Imparfaite par rapport à la vision béatifique. Eh bien, si mon intelligence par elle-même peut avoir cette, vous voyez, si ce n'est cette évidence, cette science, cette connaissance, de façon nécessaire de l'existence de Dieu, vous voyez, il y a une perfection nouvelle. Voilà. Nous regarderons tout à l'heure, hein, ce regard. Alors maintenant, comment l'intelligence du théologien va coopérer à se donner révélé. Bon.
Session de théologie, la création, le péché, par le père François Arimon, le 21 février 1993, deuxième cours.
Dire philosophiquement. La causalité de Dieu touche premièrement ce qui est, ce qui lui est propre, mais rien n'empêche que Dieu touche le devenir, agisse au niveau du devenir, dans un miracle, Dans un miracle, Dieu peut agir sur le devenir, sur un mouvement. Voilà. Quand il arrête le soleil pendant 24 heures pour que Josué et les Israélites puissent exterminer tous leurs adversaires. Là. C'est peut-être pas l'exemple le mieux choisi. Mais... Pardon. Pardon. À Cana. À Cana, Dieu a agi sur le devenir. C'est l'aspect. Quand il agit au-delà des lois de la nature, bien sûr, ça touche le devenir. Ce qu'il faut montrer, c'est que ce qui est, sa causalité première, elle a ceci d'unique, c'est qu'elle touche l'être. Le croyant reçoit. Cette affirmation que tous les êtres viennent de Dieu. Vous savez, dans le livre des Maccabées, d'ailleurs un moment étonnant, c'est le moment de la mort, du martyr de ses sept fils, donc que leur mère encourage, et après qui elle meurt aussi. Je t'en prie, mon enfant, la mère parle, lève les yeux vers le ciel et la terre, vois tout ce qui s'y trouve, et sache que Dieu n'a pas fait cela de choses qui existaient, et qu'il en va ainsi de la race des hommes. Et puis il y a les textes là, nous avons lu ensemble, et puis il y a les psaumes, tu dis elle existe, tu as voulu qu'elle soit, elle fut créée. Et puis il y a, tant d'autres. Le théologien, donc, n'a pas à découvrir, il a à recevoir. Son ordre, donc, d'étude va être tout différent. Il sait que Dieu est cause. Il sait que les êtres émanent de lui, viennent de lui. Alors il va chercher à préciser d'abord, quelle est-elle, cette causalité de Dieu à l'égard de tous les êtres. Ce qu'elle est. Et alors, on va retrouver ce que nous avons vu, dans un autre ordre. Il va préciser, Dieu est cause efficiente. Dieu est cause efficiente de tout ce qui existe. Il est celui qui subsiste. Dieu est celui qui subsiste. Tous les autres êtres ou un être participé. Et donc, s'ils ont un être participé, il est causé. Il ne peut être causé que par Dieu. Provenir de Dieu. Le théologien, vous voyez, il va se servir de quoi pour mieux pénétrer la révélation. Il va se servir de ce que lui donne la philosophie. Cet effort de l'intelligence humaine. Alors il va en fait interroger sur les quatre causes. Mais il sait, mais il va essayer de comprendre selon les quatre causes principales, donc cause efficiente, cause matérielle. Dieu n'est pas la cause matérielle, mais tiens, est-ce que la matière a été créée par Dieu? Ça, c'est important, hein, parce que vous savez qu'il y a eu des hérésies, hein, dualistes, en disant que la matière était mauvaise, hein, qu'elle n'était pas créée par Dieu. Le théologien va préciser, effectivement, la matière provient, vient de Dieu. Au sens, hein, quand Dieu crée des êtres, hein, qui impliquent acte et puissance, même cette potentialité vient de Dieu. C'est ça. La potentialité que l'on trouve dans les êtres vient de Dieu. Il est cause exemplaire. À savoir que la sagesse divine contient en elle les notions de toutes choses, ce qu'on appelle les idées en Dieu. C'est sur le modèle de ces idées, ces notions, que toutes choses sont faites. Et Dieu est cause finale. Il est agent premier, pur agent. Sa bonté est fin de toute chose. Il ne peut pas agir pour un autre, hein, en dehors de lui. C'est les choses que nous avons vues hier. Hein. Et le théologien, là, il faudrait. C'est vrai que c'est délicat de faire ça dans la même session comme ça. Hein. Et en même temps, je crois que ça peut nous aider à saisir ces ordres différents. Vous voyez, ça, c'est l'effort de l'intelligence qui veut comprendre toute la richesse de ce qui est proposé à croire. Quand on parle que Dieu est cause, hein, cause des êtres, ben, le théologien veut en comprendre toute la richesse. Nous, on comprend tout de suite cause efficiente. Eh bien non, il va, vous voyez, montrer. Il est le premier principe, il est unique, mais on peut envisager en lui différentes causalités. Il est un, hein, il est unique, mais on peut envisager en lui différentes causalités. Causalité efficiente, causalité exemplaire, causalité finale. Et c'est cela, hein, le théologien va dire, c'est cela qu'on appelle la création. Qu'est-ce qu'on appelle la création? Il est cause, hein, efficiente, exemplaire, finale. Et toute potentialité vient de lui. Rien n'échappe à sa causalité. Le théologien, je ne l'ai pas suffisamment dit tout à l'heure, hein, il est là. Il est au service du croyant, hein, de l'enfant de Dieu. Donc, cela doit nous aider dans notre vie de foi. Doit nous aider. Nourrir, hein, d'une certaine façon, notre foi. Ce sur quoi porte notre foi. Ça va la nourrir, vous voyez, déjà, en nous faisant découvrir la richesse des énoncés de foi. Il est créateur. C'est très riche de dire qu'il est créateur. Et pas simplement un premier moteur, non. C'est bien plus riche. Il est celui qui porte tout en lui, qui porte l'exemplaire de tout en lui, le modèle de tout en lui. Il est celui pour qui tout est fait. Par qui? Voilà ce qu'on appelle la création, donc. C'est donc faire quelque chose à partir de rien. Créer, faire quelque chose à partir de rien. Ayant découvert, hein, ayant précisé comment cette causalité, elle est absolument première, le théologien redit, oui, c'est faire quelque chose à partir de rien. Faire quelque chose à partir de rien, ce qu'on a vu hier, mais dans un regard de foi, l'intelligence coopérant avec la foi, ben, manifeste à nouveau cette primauté absolue. La création, donc nous avons vu quelle était cette causalité, cette, en essayant de saisir comment dans les créatures hein, émanent de Dieu. Créer, qu'est-ce que ça pose dans la créature? Est-ce que la création est quelque chose en chacun de nous? La création dans la créature n'est autre qu'une relation au Créateur et une relation réelle. Il y a en chacun de nous une relation réelle au Créateur. Au sens strict, hein, c'est pas, il n'y a pas un changement. Non. C'est fait ex nihilo, il n'y a pas une matière, pas un sujet. Je suis. Voilà. Dieu veut que je sois et je suis. Et la création, qu'est-ce que ça pose en moi? Vous voyez, ce n'est pas un changement de je. Ce n'est pas un changement de je. Hein. Si par exemple quelqu'un agit sur moi, il y aura un changement de je. Hein. Quelqu'un qui m'attire, j'aime. Voilà. Ah oui, je suis changé. La création, non, ne posera pas un changement de je. Je suis. Mais elle pose une relation réelle au Créateur. Je suis relié au Créateur. Une relation, hein, c'est important de le préciser, qui est réelle du côté de la créature et qui est ce qu'on va appeler une relation de raison du point de vue, du côté de Dieu. Relation de raison, hein, c'est-à-dire qu'elle n'ajoute rien à Dieu. En moi, c'est quelque chose d'autre. Je suis, et j'ai en moi cette relation réelle. Tandis qu'à Dieu, son action n'est autre que lui-même, son essence. Donc, il n'est pas, vous voyez, il n'a pas une relation qui vient s'ajouter à son être, à la créature. Il n'a pas une relation à la créature qui vienne s'ajouter à son être. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose de très important de comprendre que chaque fois qu'il y a une action de Dieu à l'égard, hein, c'est le premier moment où on le rencontre par rapport à la création, mais on le voit pour d'autres. Hein. Je prends un tout autre exemple. Quand on parle de la maternité divine de Marie, Marie est mère de Dieu. Hein. Vous voyez, relation. Alors là, il y a vraiment une relation dans la maternité. Hein. Maternité et filiation, hein, c'est une relation. Qu'est-ce que ça change en Marie? Tout. Qu'est-ce que ça change dans le Fils de Dieu? Rien. Et elle est réellement mère de Dieu. On est devant un mystère. Hein. Ça ne change rien au Fils de Dieu. Hein? Qu'est-ce que ça peut changer à Dieu? Mais du point de vue de Marie, ça change tout. Là, vous voyez, c'est précisé ce que nous avons dit sur la gratuité. Hein. Là, nous allons, d'un autre point de vue, hein, ça nous manifeste aussi. C'est analogue à ce qu'on a dit sur la gratuité, un pur don. Il y a une relation réelle du côté de la créature. Une relation uniquement de raison, ça veut dire uniquement de raison. Hein. Une relation que, selon mon mode de pensée, je mets en Dieu, hein, et qui n'est pas quelque chose de plus que Dieu, quelque chose d'ajouté à Dieu. La création, cette causalité, s'achève à des êtres subsistants. Ce que Dieu crée, ce sont des êtres subsistants. Ce que les êtres auxquels il convient totalement d'être créés, c'est ceux auxquels il convient d'être, ceux qui sont par soi. Tout le reste, on va dire, est créé avec. La création s'achève à des êtres subsistants qui ont leur autonomie dans l'être. Et donc, premièrement, à la personne, au niveau de notre monde. Un caillou, est-ce que c'est un être subsistant ? Partie de l'univers. Un être subsistant, vous voyez, à qui il convient d'être et qui est par soi. Certaines façons, quand on dit par soi. Propriété de la substance, subsistance. Le théologien va préciser aussi que Dieu seul peut créer, faire quelque chose de rien, ça appartient à Dieu seul. À nouveau, manifester ce qui caractérise cette causalité de Dieu à l'égard de tous, ça lui appartient en propre. Une question se pose : création et Trinité. Je sais qu'elle a été abordée au moins dans un des carrefours hier. La création est-elle l'œuvre de Dieu dans son mystère d'unité, de Dieu trine? Alors attention, Dieu est un et trine. Est-ce que la création, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Est-ce que la création appartient au Père? Ou est-ce qu'elle est commune au Père, au Fils et au Saint-Esprit? La création appartiendrait au Père, la rédemption au Fils, la sanctification à l'Esprit-Saint? Non. Faisons l'homme à notre image. Eh bien non. Théologien précise, la création est commune aux trois personnes divines. Pourquoi ? Créer convient à Dieu selon son être, lequel est son essence commune aux trois personnes. Créer convient à Dieu selon ce qui est commun aux trois personnes. Non pas selon ce qui les distingue. Donc cette action, elle est commune aux trois. Mais le théologien va quand même pas s'arrêter là. Le théologien va pas s'arrêter là. Parce que nous recevons le mystère de la Trinité. Alors le théologien va préciser. Le Père a produit la créature par son Verbe, qui est le Fils, par son amour, qui est l'Esprit Saint. Parce que alors ça impliquerait tout le traité de la Trinité. Non, pas tout, une partie. Quand on essaye de préciser, de pénétrer le mystère du Dieu trine, on part ce qu'on appelle les processions. Une personne qui procède d'une autre. Le Fils procède du Père. Je suis sorti du Père. Jésus affirme cela. Et le théologien, quand il scrute l'écriture, découvre comment est-ce qu'on peut parler de procession. Procession qui demeure à l'intérieur de Dieu. En Dieu, il y a le Fils qui vient du Père. Cette procession, il va préciser, on découvre l'écriture, c'est le Verbe, il est le Verbe. Au commencement était le Verbe. Cette procession, elle est selon le mode de connaissance, selon un mode intellectuel. Il y a dans la vie de l'intelligence une fécondité qui fait que l'acte de connaître produit un fruit qui demeure intérieur à l'acte de connaissance. Ça, c'est l'analogie dont sert le théologien. Il y a une fécondité, nous pouvons découvrir une fécondité dans notre vie spirituelle. Une fécondité qui reste intérieure à l'intelligence ou à l'amour, ou à la volonté. Et c'est en servant de cette analogie que le théologien, recevant l'écriture, il ne s'agit pas de démontrer la Trinité, mais recevant, découvre les noms qui sont donnés aux personnes divines. Il est le Verbe, il est le Fils. Il est engendré, il est conçu. Le Fils procède selon le mode de connaissance. L'esprit procède selon un mode d'amour. Bien sûr, connaissance et amour sont communes aux trois personnes divines. Alors, on est dans un moment très, très, très. Oui, on voit une frontière. Et en même temps, on peut parler de procession selon la connaissance et de procession selon l'amour. Et en ce sens, on va pouvoir dire, le Père crée par son Fils, qui est le Verbe, et par l'Esprit Saint, qui est amour. En ce sens où les processions incluent c'est ce qu'on appelle ces attributs essentiels, que sont la science et la volonté en Dieu. C'est toute la doctrine qu'on appelle des appropriations. La doctrine des appropriations, vous voyez, qui fait que, selon un certain point de vue, on peut approprier à une personne ce qui est commun aux trois. La puissance, le Fils n'est pas inégal au Père en puissance, mais la puissance faisant appel au principe, comme le Père est principe, on va approprier la puissance au Père. Par exemple, le Père tout-puissant. Ça ne veut pas dire que le Fils n'est pas tout-puissant, mais il y a une appropriation. C'est là qu'on voit les limites de notre langage, par rapport, plus qu'avant même de notre langage, de notre pensée par rapport au mystère de la Trinité. Il faut garder à la fois cette affirmation, c'est commun, le fait de créer est commun aux trois personnes, mais en même temps, et cela, en s'appuyant sur l'Écriture, on ne peut pas le faire par soi-même, c'est en s'appuyant sur l'Écriture, eh bien, on peut dire, oui, il crée par le Fils et par l'Esprit Saint. En lui, tout fut fait. Alors là, je vous laisse retrouver dans le prologue de l'Évangile de Saint Jean, dans les épîtres de Paul, aussi tout ce qui est dit par rapport à la place du Fils dans la création. Premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Alors, oui, est-ce que, une question corollaire, si la création est l'œuvre de la Trinité, pourra-t-on trouver des vestiges de la Trinité dans la créature? C'est important, parce que sinon, on pourrait rien dire sur la Trinité. Oui, dit le théologien. Et ça, à nouveau, c'est dans un regard de foi. Hein. Et c'est, vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on découvre. On va pas découvrir. On déduit. Et à la lumière de la foi, je peux donc avoir un regard nouveau sur ce qui est créé. Et essayer de découvrir, et le théologien va dire, surtout dans l'esprit de l'homme, de découvrir, hein, des traces de la Trinité, ce que je viens de vous dire, intelligence et amour, surtout dans les créatures spirituelles. La création est commune aux trois personnes, hein, et en même temps, chacune y est engagée. Alors, je peux chercher, hein, à découvrir ces traces. Enfin, hein, dernière question par rapport à comment les créatures émanent. Oui, la création est présupposée, hein, à l'œuvre de la nature. Elle n'est pas mêlée. À nouveau, hein, pour en montrer cette séparation. Hein. Dieu seul peut créer et la création n'est pas mêlée à l'œuvre de nature, à l'œuvre de la nature. Hein. Elle est présupposée. Ça devrait nous éclairer, hein, sur tous les rapports entre création et science, hein, le problème de la création et la science. Qu'est-ce que touche, hein, la science? Regarde au niveau de la nature, et encore, hein, et le mouvement, le devenir. Regarde le devenir. La création est d'un autre ordre. Donc une méthode scientifique ne peut pas toucher la création comme création. Je vais essayer de remonter à un premier moment, hein. C'est pas la création, ça. On reste dans le devenir, dans la succession. Il y a un point, alors je vois que oui, l'heure avance, que je ne vais qu'évoquer. Le commencement, la durée de la création. Est-ce que le monde a toujours existé? Aristote l'avait affirmé. Il affirmait l'éternité du monde. Est-ce qu'on peut démontrer que le monde a toujours existé? Non. Mais on ne peut pas démontrer non plus que le monde n'a pas toujours existé. Tout en étant créé, il aurait pu, hein, il pourrait exister depuis toujours. Seule la foi nous dit qu'il y a un commencement du temps. C'est sûr que par rapport à nous, hein, c'est peut-être difficile, on dit, mais s'il est créé, il y a nécessairement un commencement. Oui. Attention, qu'est-ce qu'on parle? De quoi parle-t-on? La création n'est pas un devenir. Nous l'avons dit, la création n'est pas un devenir. Il fallait la foi, hein, pour nous dire il y a un commencement. La fameuse question, hein, Saint Augustin, alors là, partira comme ça sur son étude sur le temps, hein, au commencement, mais avant de créer, que faisait-il, hein? Et puis, mais voilà, Vous voyez, en même temps, qu'est-ce que ça nous dit? Regardez dans la prière de Jésus. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Dans la foi, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a un commencement. Avant que le monde fût. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça nous aide aussi à saisir. Je crois, c'est cet absolu de la vie de Dieu qui est absolument première. Alors elle l'est de toute façon, mais en plus, avant que le monde fût. Dieu cause des êtres, cause efficiente, cause exemplaire, cause finale. Dieu est-il cause de la distinction des êtres? Oui. Et le théologien va chercher à comprendre, et vous voyez, pourquoi celui qui est un a-t-il été source de multiplicité? La question de l'un et du multiple, c'est une grande question. Comment de l'un provient le multiple? Le multiple qui implique une certaine imperfection, ce qui doit toujours se ramener à l'un. C'est Dieu qui a été, qui a voulu cette multiplicité parce qu'aucune créature ne pouvait suffisamment représenter sa bonté. Or, il crée par pure bonté. Il fallait la multiplicité des créatures. Un regard sur le monde, ça nous donne un regard sur le monde, sur la diversité de tout ce qui existe. Regardez le cantique de François d'Assise, quand il regarde à la création. Alors, toute la création nous parle de Dieu. C'est Dieu qui a voulu cette magnificence, cette multiplicité, cette diversité. Il y a un regard nouveau qu'on a sur notre monde, dans cette lumière. Rien n'est vain. Tout est là pour manifester la bonté de Dieu, pour sa gloire. Une multiplicité qui se donne dans l'inégalité. Il y a un regard sur l'ordre dans le monde, l'inégalité. Ce qu'il fallait des degrés, c'est vrai. Une multiplicité implique un ordre. Il faut plusieurs degrés de bonté. Tout ce regard aussi que le théologien doit avoir, et nous devons avoir comme croyants, sur l'inégalité dans les êtres. Il y a des créatures plus parfaites que d'autres. Ça a été voulu par Dieu. L'ordre. Denis. Denis, qui est un auteur dont on pensait au point de départ qu'il était le Denis dont parlent les Actes des Apôtres, converti par saint Paul sur l'aéropage à Athènes. Denis a une très belle vision sur l'ordre, la hiérarchie, qui nous parle de Dieu, qui nous parle de sa sagesse, qui nous manifeste la sagesse de Dieu qui ordonne. Il y a une autre distinction entre bien et mal. Tout à l'heure, la question a été posée, le bien et le mal. Le mal provient de la limite de la bonté de la créature. Et Dieu a fait des créatures limitées. Faillibles. Alors le théologien va essayer de préciser... Mal, une absence de bien, mais qu'il est second. Et puis il faut distinguer dans le mal. Le mal dans le domaine du volontaire, qui implique la liberté. Et ça, c'est toute une question à part. Hein. La question que vous allez voir avec le père Philippe. Question du péché, la faute, et puis la peine, hein, conséquence de la faute. Il y a un mal de faute, il y a un mal de peine. Et puis il y a le mal dans le domaine de la nature. Le fait d'être aveugle, par exemple, c'est un mal, privation, hein, d'une forme naturelle, la vue, la capacité de voir. Hein. C'est un mal que d'être aveugle. Il faut distinguer le domaine du volontaire, le domaine de la nature. Du point de vue de la création, ce qu'on peut préciser, hein, c'est voilà, Dieu a fait des êtres limités, faillibles. Ce n'est pas la réponse. Hein, la réponse au problème du mal, c'est la rédemption. Hein. Et encore, la réponse ultime, elle est dans un regard de ce qu'on appelle la théologie mystique. Hein, regard sur le cœur du Christ. Si on distingue enfin, si on regarde maintenant ces créatures distinctes, il y a une grande division pour le théologien qui est les créatures spirituelles et les créatures corporelles. Et ça, c'est propre à la foi. L'angéologie, les anges. Seule la foi nous dit qu'il y a des anges. Alors, regardez, peut-être que ça vous aidera, ça nous aide à saisir ce que c'est qu'un raisonnement théologique. Là, je prends dans la somme théologique de saint Thomas. Question, existe-t-il une créature totalement spirituelle et absolument incorporelle? Réponse, il est nécessaire d'admettre l'existence de créatures corporelles. Il est nécessaire. Quelle nécessité? C'est une démonstration alors? En effet, le but principal de Dieu dans la création est le bien, qui n'est autre que l'assimilation à Dieu. Or, un effet n'est parfaitement assimilé à sa cause que s'il l'imite en cela même qui donne la cause et son principe. Ainsi, le chaud produit le chaud. Dieu produit la créature par son intelligence et sa volonté, nous l'avons expliqué plus haut. La perfection de l'univers exige donc qu'il existe des créatures intellectuelles. Et l'acte d'intellection ne pouvant être l'acte d'un corps ni d'une vertu corporelle, car tout corps est déterminé dans le temps et dans l'espace, nous devons nécessairement affirmer, hein, trois nécessités, nous devons nécessairement affirmer que la perfection de l'univers requiert l'existence de créatures incorporelles. Voilà. Alors si, parce qu'après il dit, et les philosophes anciens qui ignoraient la nature de l'intelligence et ne la distinguaient pas du sens, estimaient que rien n'existe en dehors de ce qui peut être saisi par les sens et l'imagination. Alors vraiment, est-ce qu'on peut le démontrer? On voit bien, non? C'est pas une démonstration. Vous voyez, ça c'est typique. Hein. Mais en même temps, je voulais lire ça parce que ça montre bien. Il faudrait s'arrêter, il nous reste quelques minutes, hein. Il aurait fallu s'arrêter bien plus sur chacun des points que j'ai mentionnés. Il y a un ordre de sagesse que le théologien veut découvrir. S'il y a un ordre de sagesse, ça veut dire qu'il y a une certaine nécessité à ce qui existe, à tout ce qui est créé. Cette nécessité, par exemple, de l'existence des anges. Le théologien ne peut pas simplement recevoir, voilà, il y a des anges. Mais c'est une œuvre de sagesse. Pourquoi y a-t-il des anges? Alors il va dire, bah oui, c'est une nécessité relative pour la perfection de l'univers. Ce qu'on appelle la nécessité de convenance. Ce n'est pas une nécessité absolue, sinon on pourrait le démontrer. Non, c'est une donnée de foi. Mais ça montre bien, hein. Et vous voyez, donc, nous-mêmes dans notre foi, l'existence des anges n'est pas simplement un donné, voilà, il y a des anges, hein, puis il y a des hommes. Qu'est-ce que cela nous dit de Dieu? Qu'est-ce que cela nous dit sur la création? Les anges nous rappellent la fin de la création, qui est le retour à Dieu, l'assimilation à Dieu. Et nous rappellent à nous-mêmes ce pourquoi nous sommes faits. Les anges, créatures spirituelles, se distinguent des créatures corporelles parmi lesquelles il y a l'homme. Alors le théologien va principalement, hein, quand on regarde, comme nous l'avons fait hier, les textes de l'Écriture, va principalement regarder l'homme, parce que c'est sûr que tout l'univers physique est fait pour lui, et va essayer de découvrir en quoi l'homme est l'image de Dieu. Alors ça, c'est trop triste, on n'a pas le temps de le faire, hein, mais... Voilà, dans un regard de foi, l'intention du Créateur, de lire l'intention du Créateur sur l'homme, la création de l'homme et de la femme aussi. Pourquoi la femme a-t-elle été tirée d'une côte? Oui, ah, bonne question. Comment le comprendre? Et puis, je l'aborde, mais... Alors là, je sais que le Père Marie-Dominique en reparlera sûrement. Les premiers parents. Le fait qu'il y ait les premiers parents. Ça, c'est une donnée de foi. Adam et Ève n'existent que dans la foi. Philosophe ne peut rien dire dessus. Quelle est cette intention de Dieu qui a voulu qu'il y ait des premiers parents qui soient constitués tête, Adam est tête de l'humanité. Ça fait partie, hein, de la création. Alors ça, je sais que le Père y reviendra, parce qu'on ne peut pas parler, hein, du péché originel sans regarder de front cette question-là. Il aurait fallu aborder quelque chose d'ailleurs que le philosophe peut dire aussi. Le gouvernement divin. Montrer comment il y a non seulement Dieu qui est source, qui est cause première, mais en plus son gouvernement à l'égard de la création. Son gouvernement qui s'exerce dans deux actes. Dans le fait qu'il conserve, hein, ce qu'il a créé. Il conserve dans l'être ce qui est créé. On a parlé parfois de création continue. Il n'y a pas une création continue. Il y a un acte de création qui est éternel en Dieu, hein, et qui marque un commencement dans la créature. Mais cette créature qui existe, hein, et qui existe dans le devenir, elle est conservée dans l'être. Et le gouvernement aussi de Dieu qui est, vous voyez, l'aspect de l'exécution, hein, de Dieu. L'exécution de la science et la volonté de Dieu. Donc, qui conserve et qui va mouvoir les êtres comme premier agent. Qui est présent à tout le devenir, non seulement comme créateur, comme cause première, hein, comme cause première efficiente, finale, exemplaire, mais en plus, qui est présent parce qu'il gouverne, parce qu'il conduit toute chose à sa fin. Non seulement en leur donnant d'exister, non seulement en finalisant leur vie, et dans l'ordre de l'exécution, il conduit toutes choses à leur fin. Oui. Bon, ben... Cet après-midi, il y aura donc un carrefour à 16h. Et puis à 17h, normalement c'est le Père Marie-Dominique qui sera là. Je vous remercie beaucoup de votre patience. Et puis... Voilà. Bonne fin de session.